Chapitre 46. En ce même mois de février, il se passa à Rome un événement que nous devons signaler à nos lecteurs. Nous les prierons donc de nous suivre au château Saint-Ange. Là, dans une chambre pauvrement meublée, sur un lit étroit, une femme était couchée. Ses yeux de mystère, songeurs et fixes, évocateurs de rêves plus gigantesques et splendides que les rêves de Borgia et de Six, les yeux de cette femme à la tête sculpturale, à l'opulente chevelure noire dénouée sur les épaules de marbre, les yeux de cette femme aux attitudes de force et de grandeur, même dans cette heure où elle gisait abattue par la nature, elle qui avait rêvé le triomphe sur l'humanité, ses yeux de diamant funèbre s'attachaient, graves, profonds, sur un enfant qui dormait près d'elle, un enfant, un tout petit être solide, musclé, aux poings énergiquement fermés. Une servante penchée sur le lit regardait. Et ce tableau même, dans le clair-obscur de cette chambre, à l'unique fenêtre grillée d'épais barreaux, silencieuse au milieu des rumeurs du formidable château, c'était un rêve. Cette chambre, c'était une prison. Cette servante, c'était Myrtis. La femme couchée, c'était Fausta. L'enfant, c'était le fils de Fausta et de Pardaillan. Fausta, arrêté par les sbires de Six dans la nuit de l'incendie du palais Riant, avait été enfermé au château Saint-Ange, où, pour unique faveur, on lui avait accordé de garder Myrtis près d'elle. Myrtis ne reconnaissait au monde d'autre maîtresse que Fausta, qu'elle considérait comme une sorte de divinité. Fausta prisonnière, elle partagea donc tout naturellement sa captivité. Sixte rassembla un concile secret qui eut à juger la rebelle. Plus de 200 questions furent posées à ce tribunal exceptionnel. À toutes les questions, il fut répondu à l'unanimité que Fausta était coupable. En conséquence, au mois d'août 1589, elle fut condamnée à être décapitée, puis brûlée et ses cendres jetées au vent. Ce fut le 15 août que cette sentence fut communiquée à Fausta dans la chambre où elle était détenue prisonnière. Elle l'écouta sans un frémissement, mais un pli de son front orgueilleux, le dédain de ses lèvres, indiquèrent qu'elle sortait de la vie avec cette sorte d'indifférence hautaine et glaciale qui avait présidé jusque-là à ses actes. L'exécution devait avoir lieu le lendemain matin. Quand les juges se furent retirés, Myrtis s'agenouilla en sanglotant aux pieds de sa maîtresse et murmura « Quel horrible supplice ! Ô maîtresse, est-il possible ?» Fausta sourit, releva sa suivante, tira de son sein un médaillon d'or qu'elle ouvrit et en montra l'intérieur à Myrtis. « Rassure-toi, dit-elle, je ne serai pas suppliciée. Ils n'auront que mon cadavre. Vois-tu ces grains ? Un seul suffit pour endormir et on dort plusieurs jours. Deux endorment aussi, mais on ne se réveille plus. Trois foudroient en un temps plus rapide que le plus rapide éclair, et on meurt sans souffrance. Maîtresse, dit Myrtis en essuyant ses larmes, il y a là six grains. Vous morte, ma vie ne serait plus qu'une agonie. Maîtresse adorée, il y a trois grains pour vous et trois grains pour votre fidèle servante. Soit, dit simplement Fausta, apprête-toi donc à mourir, « comme je vais mourir moi-même. »« Je suis prête !» dit Myrtis. Fausta versa les trois grains de poison dans une coupe et trois dans une autre coupe. Myrtis s'apprêta à verser un peu d'eau dans les coupes. À ce moment, Fausta devint affreusement pâle, un tressaillement prolongé la secoua jusqu'au fond de son être, elle porta les mains à ses flancs et un cri rauque, un cri où il y avait de l'angoisse, de la terreur, de l'étonnement, de l'horreur, jaillit de ses lèvres blanches. « Arrête ! » gronda-t-elle. « Je n'ai pas le droit de mourir encore !» Les six grains de poison furent remis dans le médaillon d'or que Fausta cacha dans son sein. Toute la nuit, Fausta parut s'interroger, écouter en elle-même, et doucement, de ses mains, elle caressait ses flancs, et son visage exprimait tantôt un étonnement infini, tantôt un sombre désespoir, et tantôt une sorte de ravissement, comme un ciel de crépuscule où passeraient tour à tour de légères vapeurs dorées par le soleil disparu et des nuées noires d'ouragan. Le matin, des pas nombreux s'approchèrent de la porte, Et Myrtis, ignorant ce qui se passait dans l'être de Faustin, se reprit à pleurer, car on venait chercher sa maîtresse pour la conduire au supplice. C'étaient les juges, en effet, les juges et des gardes, les gardes et le bourreau. L'un des juges déplia un parchemin et fit une nouvelle lecture de la sentence. Alors le bourreau s'avança pour se saisir de Faustin et l'entraîner. Mais elle l'écarta d'un geste et, sereine, glaciale, orgueilleuse, telle qu'elle avait toujours été, elle prononça « Bourreau, il n'est pas temps encore de remplir ton office. Juge, vous ne pouvez me tuer encore. Pourquoi ?» demanda le juge qui avait lu la sentence. Et Faustin répondit « Parce que vous ne pouvez tuer deux vies n'en ayant condamné qu'une, parce que mes flancs portent une vie nouvelle qui échappe à votre justice, parce que je ne suis plus la Vierge, parce que je vais être mère. » Les juges s'inclinèrent et sortirent. C'était en effet une loi sacrée, dominant toutes les lois dans tous les pays d'Europe, qu'une femme enceinte ne pût être exécutée. C'était un cas de grâce contre lequel se brisait la volonté des rois et des papes. Mais Sixte Quint tourna la difficulté. Il obtint du tribunal qui avait condamné la rebelle qu'il ne lui fût pas fait grâce de la vie, mais qu'il fût sursis à l'exécution jusqu'à la naissance de l'enfant. Cette sentence nouvelle fut communiquée à Faustin vers la fin septembre. Elle l'accueillit en souriant. Il y avait 3 jours que l'enfant était né. Tout dans ce petit être dénonçait une étrange vigueur, un furieux appétit de la vie. Il fermait les poings, se raidissait, criait comme d'autres enfants à 3 mois. Il fallait lui obéir aussitôt lorsqu'il réclamait à boire. Myrtis, ravie, extasiée d'admiration, le nourrissait avec du lait que le geôlier lui remettait. Il était de ces enfants rablés dont les mères disent avec orgueil « Ah, il ne sera pas commode à élever, celui-là !» Mais Faustin ne disait rien, elle. Seulement, dès que Myrtis avait satisfait l'appétit glouton et impérieux du nouveau-né, elle le faisait déposer près d'elle sur l'oreiller et, des heures entières, elle le regardait dormir d'un sommeil solide et robuste. « Voyez, maîtresse !» disait Myrtis en adoration. « Voyez, il a déjà des cheveux d'un beau noir. Oh, mais il ouvre les yeux !» Il voit! Oh, il me mord le doigt! » Faustin ne souriait pas, ne disait pas un mot. Pendant ces 3 jours, elle ne dormit pas. Elle demeura à contempler son fils d'un regard étrange. Pas une fois, elle ne posa ses lèvres sur le front ou les mains du petit être, comme font toutes les mères. Le soir du 3e jour, la même sinistre cérémonie qui s'était accomplie se reproduisit dans cette chambre. Les juges vinrent, accompagnés du bourreau, et annoncèrent à Faustin qu'elle était assez forte pour marcher au supplice le lendemain matin à l'aube. Seulement, ils ajoutèrent que l'enfant de la rebelle serait exposé, à moins que quelque âme charitable ne le revendiquât. Puis ils se retirèrent. La nuit s'écoula, sans que la condamnée cessât de fixer sur l'enfant un regard de mystère par lequel on eût dit qu'elle essayait de lui communiquer sa volonté. 6 heures du matin sonnèrent à une horloge lointaine. Alors Faustin appela Myrtis et lui ordonna de verser dans une coupe les 6 grains de poison. Myrtis obéit en pleurant. Elle ne parlait plus de mourir elle-même car elle comprenait qu'il fallait vivre pour l'enfant. « Tu le prendras !» dit en effet Faustin d'une voix aussi calme que lorsqu'elle parlait en souveraine. « Tu le prendras, tu l'élèveras, tu l'emporteras à Paris. Je veux qu'il soit élevé à Paris et qu'il y vive. Puis, quand il sera homme, tu lui diras qui il est et mon histoire et l'histoire de son père. » « Je jure de vous obéir !» sanglota Myrtis. Faustin fit un signe de la tête que c'était bien, jeta un coup d'œil sur le verre de poison qui était sur une petite table à portée de la main, et alors, pour la première fois, elle prit l'enfant dans ses bras. Plus ardemment, elle fixa son regard de flamme sur l'enfant qu'elle tenait dans ses mains, en le soulevant au bout de ses bras. L'enfant s'éveilla, et ses yeux clignotants parurent regarder. Et alors Faustin lui parla. « Fils de Faustin, fille de Pardaillan, que seras-tu? Te dresseras-tu un jour devant ton père? Seras-tu le vengeur de ta mère? Fille de Fausta et de Pardaillan, puisses-tu avoir le cœur cuirassé d'un triple airain? Puisse ton âme inaccessible ignorer à jamais la pitié, l'amour, les sentiments de faiblesse et d'esclavage? Puisses-tu passer dans la vie comme un brûlant météore que pousse la fatalité? Adieu, fille de Pardaillan. Ta mère, en mourant, te donne le baiser d'orgueil et de force par quoi elle espère que son âme passera dans ton être. Fille de Pardaillan et de Fausta, que seras-tu? En même temps, elle saisit la coupe de poison, la vida d'un trait, la rejeta, et violemment, dans le spasme suprême de la mort, imprima son baiser comme une morsure indélébile sur le front de l'enfant. Et elle retomba sur l'oreiller. Elle était morte. Que devait-il devenir, en effet, cet enfant, issu de deux êtres de force et de vie intense, aussi formidables l'un que l'autre, mais l'un, type de chevalerie, synthèse de générosité. L'autre, type d'ambition, synthèse d'orgueil. Oui, que devait-il figurer dans la vie, ce produit de deux figures si dissemblables, le fils de Pardaillan, l'enfant qui trouvait l'effroyable imprécation d'une Fausta au seuil de la vie, qui héritait peut-être de l'incalculable force de mal qui résidait dans l'esprit de Fausta, et en qui palpitait peut-être l'âme magnanime de Pardaillan. Que devaient produire, au choc des passions, ces deux forces ennemies qui s'unissaient dans le même sang? L'intrépide, l'éclatante bonté du père, l'éclatante, l'intrépide malfaisance de la mère. C'est ce qu'un jour ou l'autre nous raconterons peut-être aux lecteurs amis qui ont bien voulu s'intéresser à l'histoire de Pardaillan et de Fausta.